With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans Underscore, votre talk show IT préféré tous les mercredis soirs à 20h. Bienvenue à vous. Comment
bien.
Ça va?
Ça va très bien.
Ça va, ouais, super. Ouais.
Je suis enchanté d'avoir des invités d'honneur ce soir à l'unisson.
Eh oui.
Basti, que vous connaissez, qu'on a déjà reçu dans cette émission il y a quelques temps. Tu vas pouvoir nous parler de toutes tes évolutions, là, tu en as parlé.
J'ai un peu teasé des trucs, mais il n'y a rien de fait, mais voilà, j'évolue.
Ça va être très cool.
J'évolue à gré des émissions.
Rizzo, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, tu réalises l'émission Le Récap.
Oui, enfin, je suis réalisateur Le Stream, donc je m'occupe de plein de trucs chez Le Stream, donc entre autres Le Récap.
Le Récap qui se passe d'ailleurs en même temps.
Qui est là, juste là, ouais.
On a hésité à te mettre un petit retour sur le côté, parce que tu m'avais l'air un peu stressé.
Non, ça va, en vrai, c'est vrai que c'est toujours marrant de se dire, là, je quittais le boulot plus tôt et... C'est pas habituel, normalement, c'est sur les coups de 21h, quoi.
Donc, tu nous fais une petite faveur en venant.
Bon.
Une petite infidélité, finalement.
Oh oui, là, je vais chez la concurrence, finalement.
Ouais, exactement. C'est ça.
Est-ce que t'étais en stress de laisser ton bébé sans surveillance, là?
Non, parce que vraiment, ils savent super bien s'en occuper sans moi. Mais non, ce qui était bizarre, c'est que oui, ça me faisait ne pas faire le récap. Après, c'est vrai que le récap, je le fais pas forcément tous les jours non plus. Il y a genre le mardi, je fais d'autres émissions, enfin. On tourne en fait avec toutes les
sur émissions. Le stream, donc on a pas précisé, mais qui est une web TV, la première web TV de France, je crois.
Alors, il faut jouer avec les mots, il faut dire la première web TV généraliste de France.
Oui, parce qu'il peut y avoir des jeux vidéo, du
parce
LOL.
Parce qu'il y a des web TV spécialisées jeux vidéo, donc par exemple Solary, OTP, voilà.
Tu vas pouvoir nous raconter plein d'anecdotes sur ton métier passionnant et sur le streaming en général. Et d'ailleurs, je vais vous fournir une première anecdote, c'est que avant de lancer cette émission, j'ai littéralement poncé la vidéo où tu montres un petit peu les coulisses de le stream.
Ah oui.
Vidéo de, enfin, un live de 1h30-2h. Ouais. Je te promets que j'étais là, je faisais des pauses toutes les 3 secondes pour essayer de comprendre ce que vous racontiez.
Ah oui, oh là là.
Pour te dire à quel point je partais de loin, tu vois, dans le stream game.
Wow.
Donc j'écoutais, c'est quoi la Tricaster, ça veut dire quoi ce truc, tu vois? Et j'étais vraiment en mode éclaireur.
Magnifique.
Donc merci à toi.
Bah, de rien, ouais. Moi j'ai bien aimé faire cette vidéo coulisses et j'aimerais vraiment en refaire une là assez rapidement parce qu'en fait cette vidéo date de, je crois, 2019, c'était la rentrée 2019 et ça a tellement changé que j'ai vraiment vraiment envie de montrer ce qui a changé depuis et
bah moi je suis chaud comme ça on pourra faire la mise à jour de notre
mais
côté.
En fait on devait le faire et bah comme d'hab comme c'est un truc vraiment si jamais on sait pas quoi faire un lundi soir et tout et compagnie ça prend toujours un peu plus de temps mais c'est vrai qu'on a des studios qui ont changé depuis, on a des technos qui ont évolué, toujours des
déjà
trucs
à l'époque j'ai pas de quand ça date mais déjà à l'époque c'était quand même archi propre comme installation. Ouais. Vous aviez des systèmes pour envoyer des flux vidéo à l'autre bout du bâtiment.
Ouais.
En passant par le réseau internet.
C'est ça.
Pouvait y avoir des gus qui se baladent avec caméra embarquée.
Oui.
Accès à toutes les caméras de surveillance enfin c'était
c'est
stylé.
Un peu ça, ouais. En fait, moi, c'est toujours mon kiff, c'est de me dire, oh, mais si on pouvait avoir des flux vidéo disponibles n'importe où, n'importe comment. C'est un peu mon but ultime, on va dire. Et on continue de travailler là-dessus parce que, ouais, le futur, c'est vraiment la vidéo sur IP. Donc, et non plus des câbles HDMI et compagnie qu'on branche. Maintenant, on est vraiment en train d'essayer de supprimer cette contrainte du câble.
Le stream 3.0, finalement.
Ouais, ouais, toujours le stream du Turfu.
Basti aussi, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, tu parles de design sur YouTube et sur Twitch.
C'est ça, tout
à
fait.
Tu viens de passer les 40 000 abonnés sur ta chaîne YouTube.
Yes, bon, j'ai pas de beau cadre comme toi encore, mais je croise les doigts.
Ça va arriver, donc félicitations.
Merci.
Quel est le genre de contenu que tu proposes à ta communauté?
Alors, comme tu dis, ça parle de design, donc plus précisément de UX design, donc du design d'interface, de l'expérience utilisateur. Et je dirige la chaîne de plus en plus vers de la vulgarisation de ce qu'on peut trouver sur nos téléphones, sur nos sites web, etc. etc. Donc ça, c'est sur YouTube. Et sur Twitch... J'ai plusieurs formats, Le vendredi matin, vous pouvez me voir travailler sur des vrais projets. J'appelle ça le télétralive. Voilà, ça a bien marché aussi avec les gens qui sont en télétravail. Désolé, qui me suivent comme dans l'open space.
C'est des vrais projets pour des vrais clients.
Ouais, j'essaye de faire ça et les gens apprécient beaucoup. J'ai remarqué, donc j'essaye de réitérer ça. Moi, dans ma négo, j'adapte mon prix, j'adapte mon contrat avec la personne pour que je puisse travailler en live. Et donc ça, c'est le vendredi. Le lundi soir, je fais du coup des petites actus de la semaine du design et du web. Donc ça
très cool, très accessible. Vous n'êtes pas obligé d'être un méga nerd du design,
ouais,
etc.
C'est très visuel.
Ça te fait une petite veille. Hein.
Ouais, c'est ma veille en fait, et du coup je la partage. Donc c'est gagnant-gagnant, et surtout que je l'ai dit tout à l'heure parce que j'ai fait une intervention dans une école, mais en fait le fait de faire ça, ça m'a mis dans une inertie où les gens m'envoient de la veille maintenant. Et du coup je suis en live. J'irai pas jusque là, mais en fait on vient me dire tiens pour ton live ça peut être trop bien, ou par exemple je vais parler d'un truc, mais je connais que 10% du sujet, et quelqu'un va commencer à m'expliquer un truc. Et j'en apprends moi-même en live. Et en fait, c'est cette boucle vertueuse de Twitch qui est vraiment, je pourrais plus m'en passer, quoi.
Alors, moi, j'avoue, je fais un peu semblant de découvrir. Et on a eu beaucoup de questions là-dessus. Comme quoi, tu aurais fait la nouvelle direction artistique de la chaîne Micode. Et réponse, c'est que, effectivement, tu y as participé.
J'ai participé, j'ai pas fait tout seul, évidemment.
Avec Sony et Grougrou.
Le gros gros de métal, bien sûr.
Le gros gros de métal. Voilà, si vous appréciez la nouvelle direction artistique que vous pouvez retrouver sur les nouvelles chaînes de Micode, et ça vient entre autres.
Tout à fait.
Alors pour information, ce logo, je crois qu'il a été pendu.
Brainstorm.
Il a été pendu pendant le dernier call, pendant les trois dernières minutes.
Ouais.
Comme ça, c'est un comptable.
/, allez hop.
Ouais, en vrai, c'est hyper important de le dire, mais pour moi, on n'est pas sur du design d'interface. Là, on était sur la créativité pure. On a travaillé une fois, deux fois ensemble, et au dernier call, comme tu le dis, j'ai fait, mais sinon, les gars, regardez. Wap là, boum bim. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est vraiment deux semaines de travail ensemble qui ont donné naissance à ça.
Oui.
C'est pas un graphiste qui arrive souvent tout seul avec l'idée. Il faut vraiment prendre en compte que c'est le fait d'avoir travaillé avec une équipe qui a bien été choisie avec un bon brief.
Tu n'es pas payé 300€ par seconde.
Non, c'est ça. Et surtout que je veux pas, c'est absolument pas l'un ou l'autre qui a créé le logo. C'est forcément nous tous. C'est ça qui est important de dire.
Ça émane de toutes les.
Et d'ailleurs, je te l'avais dit quand on avait commencé ce projet, j'ai dit ce qui serait bien, c'est d'être ensemble et de travailler ensemble. Et on avait dit, bon, on va le faire en visio, mais idéalement. Et c'est là où se passent les meilleures choses.
Je suis d'accord. Et moi, je suis très satisfait du résultat, en tout cas.
Voilà. Et sinon, les autres formats, c'est du coup les 8 reviews. Donc, il y a des abonnés qui m'envoient leur travail. Je donne quelques avis pour les aider. Les actus de lundi. Et le mercredi, c'est assez fluide aussi en fonction des invitations, etc. Mais de plus en plus de collabs. Bon, là, il y a Underscore, mais peut-être aussi plus de live avec Hardisk, etc.
Voilà. J'ai vu les amitiés se créer.
Ouais.
On va commencer cette émission avec deux petites news. Dans la rubrique « Un gros service est down tous les mois
»,
en ce moment, c'est pas mal. Oui.
Je demande Google.
Sa
plateforme, donc Cloud, le Google Cloud Platform, était complètement tombée hier soir. Je ne savais même pas que c'était possible que l'ensemble d'un service cloud tombe, mais c'était le cas pour un problème réseau, encore une fois. Pour ceux qui avaient suivi notre chronique sur le Facebook down il y a quelques semaines, vous pourrez aussi la voir sur YouTube. Mais en gros, pendant une demi-heure, impossible d'accéder à Discord, Snapchat, Spotify. Il y avait un Snapchat down l'été.
C'est ça que j'ai vu, moi.
Tout le monde était perdu sur Snapchat, n'est-ce pas? Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est si les GAFAM pouvaient embaucher des ingénieurs réseau, ça m'arrangerait. Honnêtement.
Mais alors, c'est quoi le.
Ouais, c'était vers quelle heure déjà?
On n'a pas encore.
On ne sait pas le pourquoi du comment. Ce n'est pas, les requins qui mangent les câbles, là, comme l'autre fois, parce qu'il y a eu ça une fois.
La perte du routeur.
Il y avait des problèmes dans BGP aussi. Enfin, il y a eu plein de choses.
Mais c'est arrivé vers quelle heure en vrai?
C'était fin d'après-midi. Pour tout te dire, on est dans notre bureau. Il y a un disque qui vient nous voir, qui nous dit: les gars, arrêtez tout. Il y a Google qui est dans. Sauf que
c'est la fin du monde.
Il a dit
d'habitude,
c'est insane.
Voilà, il a dit c'est insane.
C'était comme ça, c'est insane.
Potentiellement, il a fait ça. Et comme d'habitude. Et d'habitude, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous fait des trucs.
Des contenus, bien sûr.
Oui, c'est vrai.
Etc. Sauf que moi, j'étais juste saoulé.
T'as voulu uploader le contenu et tu pouvais pas, c'est ça?
Ou alors, il y a ça, mais juste, j'en avais marre. Parce que ça fait vraiment 2 mois que toutes les 2 semaines.
Il y a que ça.
Il y a que ça, quoi. Ouais. Donc, il y a un moment, moi, j'aimerais traiter d'autres sujets. Donc, recrutez des ingénieurs, s'il vous plaît.
Un peu de variété dans les postes.
Alors, attends, GCP, Google Cloud Platform, c'est quoi? C'est le concurrent de AWS, Amazon
Azure,
Web Services.
Exactement.
D'accord, ok.
C'est un acteur du cloud.
Ah ouais.
Comme, ouais, c'est énorme.
Oui, donc voilà.
C'est assez. Rien. Non, mais c'est fou. C'est, honnêtement, on devient blasé, mais le fait que ça ce soit possible est fou.
Mais moi, je trouve ça super stressant. Quand il n'y a plus ça, on est vraiment mal.
Mais surtout que tout le monde a un peu sacrifié son hébergement en maison pour ça.
Oui.
Deuxième news qui m'a honnêtement surpris. Voilà. Je m'y attendais pas, mais Apple prévoit de nous laisser la possibilité de réparer nos iPhones nous-mêmes.
C'est vrai que c'est bien.
Alors, il semblerait, parce que venant de la marque, honnêtement, c'est étonnant, parce que c'est pas normalement, c'est pas les plus motivés clairement là-dessus. Ils se font très souvent tirer les oreilles parce qu'ils font des appareils de moins en moins réparables. Donc c'est pour ça, honnêtement, j'ai été surpris de le lire. Et voilà, en fait, ce sera en fournissant donc des pièces et des guides pour faire des réparations même difficiles. Ce serait pour commencer disponible sur iPhone 12 et 13 et ensuite sur les Mac. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, a priori, ça vient pas de nulle part. Je pense pas que ce soit l'initiative de leur bon cœur. Ouais. Peut-être c'est une partie de marketing. Ouais. C'est aussi en fait pour anticiper un potentiel droit à la réparation qui est de plus en plus pressant aux États-Unis et qui est réclamé par beaucoup d'associations.
De consommateurs, oui.
Voilà, exactement. Ouais, c'est un peu un revirement de position, du coup, parce qu'ils ont toujours freiné des cas de fer pour que ce soit qui se rapproche de la réparation.
Ah oui, mais du coup, ils voudraient pas que ça parte chez les réparateurs tiers, du coup.
C'est les gens qui font.
Mais du coup, que ça parte chez les gens. Ouais, comme ça, ils suppriment l'intermédiaire des.
Voilà, mais je suis pas certain que leur principal problème, c'était les réparateurs tiers. Enfin, c'est sûr que c'était un de leurs problèmes, mais c'était aussi une bonne occasion de ne pas freiner les ventes des nouveaux iPhones, etc. Quoi. Donc là-dessus, c'est pour ça que c'est assez nouveau. Mais c'est cool.
Mais c'est bizarre parce que les garanties dans tout ça, comment ça va se passer?
Écoute, on va voir.
Non, mais si la garantie saute dès que tu répares toi-même, enfin, ça va forcément être un peu dissuadant.
Peut-être que ça va être un nouvel alinéa du truc, quoi.
Moi, j'ai deux mains gauches, je répare mon iPhone,
si
je le casse, quoi.
La garantie sautera si t'as un écran pas homologué, parce qu'ils aiment bien mettre des puces qui vérifient l'authenticité des pièces à chaque fois.
Genre, t'as pas eu un souci d'AirPods, toi?
Si, mes AirPods fonctionnent pas, là. J'ai plus de micro. Et ils sont plus garantis. Et ils m'ont dit, c'est 180 euros.
Ah, c'est relou.
Et j'ai fait, arrêtez, parce que je les ai achetés et vous me faites payer un produit qui est défectueux à cause de vous.
Quand même. Dit,
oui. Et j'ai fermé le chat, j'étais pas bien.
Terminé.
Le
nombre de personnes qui ont des soucis avec leurs AirPods, c'est incroyable.
Moi, c'est les AirPods 1, par contre.
Ouais. Ah ouais?
Et plus garanti, j'ai plus de micro. Je fais, allô?
Tu m'entends?
Non. Ah bah, je passe sans AirPods et c'est l'enfer.
Non, mais j'ai l'impression que c'est un produit jetable, en fait. C'est des mouchoirs.
Et j'en prends soin, en vrai, j'en prends soin, tu vois. J'ai pas laissé traîner par terre et tout, quoi. Mais j'ai plus de micro.
Bah, écoute, moi, je suis toujours pas passé. Moi, je suis toujours aux AirPods filaires, là. Et
Ah oui.
Mais ils sont bien, en vrai.
Bah, ouais, mais. Enfin, non, pareil, le micro s'arrête de fonctionner au bout d'un moment.
Mais non.
Mais après, il passe à la machine, il marche encore, tu vois. Donc, il y a aussi un petit côté, j'ai peut-être un peu maltraité.
Bon, si tu les as mis à la machine, ça m'étonne pas que le micro marche plus.
Après, maintenant, ils vont plus être fournis, justement, ces écouteurs qui étaient obligatoires. Ça y est, ça aussi, c'est une actu. Ils ne sont plus fournis.
La loi change, du coup, en Europe. Parce que,
ils ont réussi, c'était même une exception française, je crois. Ils voulaient un kit Oriette dans chaque iPhone. Ouais. Et dans les derniers, je crois que les derniers emballages français, c'était vraiment Apple qui disait, bon, vous êtes relou. C'est-à-dire que t'avais un gros carton et t'avais à la fois le AirPods rajouté et l'iPhone. Et c'était bon, on va plus le mettre dans la boîte, voilà.
Et, c'est vraiment juste pour les Frenchies.
Ouais, c'était vraiment ça.
Voilà, c'est fini pour ces petites news. On va aussi revenir sur un drama qui a eu lieu cet après-midi avec Streamlabs, OBS, etc. en deuxième partie d'émission, suivi aussi d'un jeu que tu nous auras préparé.
J'ai préparé un petit jeu. Oui, un jeu qui n'a rien à envier à un talk show sucré-salé, d'ailleurs, pour une fois. C'est un full inédit, c'est promis.
Yes. Pour une fois. Voilà, on va commencer cette émission, si ça vous dit, par une chronique que je vous ai préparée. On va entrer dans le business des télévisions et des box craquées. C'est juste après le jingle.
On n'a pas fermé la fenêtre, je me rappelle.
Effectivement, on n'a pas fermé la fenêtre, mais je crois pas que ça rentre dans la gate.
Et ben parfait.
Vous entendez le bruit dehors, les amis.
C'est comme si vous étiez avec nous. Voilà, dites-vous ça. Voilà. Voilà, n'étant pas un passionné de foot, je connaissais pas vraiment cette affaire, ce business. Vous en avez entendu parler, vous?
Non, moi non.
Vite fait. Et en fait, il y a un truc, c'est que à chaque fois que j'ouvrais, j'étais curieux que j'ouvrais les app stores de télé intégrés ou même Kodi, si vous connaissez, le media player libre. Et bien, à chaque fois, je tombais sur ce truc qui s'appelle IPTV. Je comprenais pas, mais qui utilise ça?
Alors, bah justement, IPTV, c'est ça qui nous c'est un petit peu traite, c'est ce que j'ai découvert. C'est pas illégal. Le mot IPTV
ah oui,
rentré dans le langage courant,
oui.
Un peu par ce biais, on va le voir. Mais à l'origine, c'est le nom d'un système, d'un protocole qu'on utilise tous,
bien sûr,
sans forcément le savoir d'ailleurs.
Ouais, d'accord.
Donc voilà, je me suis renseigné et c'est honnêtement une affaire tentaculaire et méga intéressante. Pour les connaisseurs, donc, vous savez probablement déjà ce que ça veut dire IPTV, mais en fait, c'est le protocole qui permet de faire de la télévision sur IP.
D'accord.
Donc, c'est grâce à cette technologie que les différents opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet notamment, qui ont des abonnements triple, ça s'appelle comment ?
Triple play.
Triple
ouais, c'est
play,
ça.
Exactement. Internet, téléphone et télévision.
Oh, exactement.
Je suis à côté de la plaque en télé, moi.
Bon, mais t'inquiète
je regarde plus ça.
Moi, je dirais, je quitte aussi.
Ah ouais, putain.
c'est grâce à cette technologie qu'ils peuvent t'envoyer via Internet, donc, les différents flux des différentes chaînes.
Ok, parce que ça passe plus par l'antenne, ça passe par des box qui sont connectés à Internet maintenant, c'est
exactement.
Ça
exactement.
Et c'est apparu quoi, début années 2000 avec la Freebox qui a été les premiers en France, qui ont été les premiers à faire ça. Ouais.
Ah, et avant, c'était encore des antennes, trucs comme ça
C'était antenne ou satellite, ouais.
Ok, d'accord. Okay.
C'était les deux modes de transmission.
Ok.
Bon, du coup, jusqu'ici, tout va bien.
Hein, ok, ça va, je suis pour l'instant.
C'est un protocole, c'est très utile. Ça s'est un peu étendu, on a notamment des applis genre Molotov, je sais pas si
ouais.
vous connaissez.
Oui, ça oui, ça je connais.
Qui permettent également d'accéder à des chaînes en ligne. Voilà, il y a maintenant la possibilité de faire ça sur mobile, sur tablette, etc. Des applications. L'écosystème s'est un petit peu agrandi, évidemment, tous les nouveaux services de vidéo à la demande, Netflix, Canal+, etc.
Ouais.
Bon, aujourd'hui, du coup, on est un peu tous... Voilà, sans le savoir, en train d'utiliser de l'IPTV sur nos télévisions connectées, sur nos mobiles, etc. Sauf que, en fait, d'autres services sont apparus, plus underground, au doux nom, par exemple, de Volca Pro 2, Smart IPTV, GoGo IPTV, Atlas Pro, bref, toute une petite gamme de produits qui sont très grey.
Ça sent bon là.
Voilà.
Ouais.
Voire black.
Ouais.
Et c'est là qu'on entre du coup dans le merveilleux monde des IPTV illégales.
Okay.
Alors, en fait, ce sont des services qui proposent d'avoir accès gratuitement à toutes les chaînes du monde.
Okay.
Genre littéralement toutes les chaînes du monde, y compris les payantes.
Bien sûr, ouais.
Évidemment.
Sinon, c'est pas marrant.
Voilà. et même parfois un nombre de films et de séries en VOD,
oui,
très
c'est
important.
C'est vrai.
Ah oui, même en VOD.
Oui, il y a des catalogues Netflix
donc
aussi.
Donc streaming, ouais, tranquillement. Quoi.
Exact. Et souvent, c'est pour un prix de 10-20 balles par an.
Ah, donc
par
c'est payant.
An ouais.
Ah, c'est
oui,
payant.
Ou plus, hein, ça peut monter okay. pour les trucs. Oui,
parce
c'est
que
évidemment
moi,
payant.
J'en étais resté à des trucs, la façon de payer, c'était de cliquer sur 27 pubs qui t'agressaient. Là, c'est pas ça, c'est payant.
Là, c'est exact. C'est du l'illégal premium, un peu.
Moi, j'oserais jamais parce payer un truc illégal.
Ça, pour ça, cliquer sur les pubs, pour les gens, c'est gratuit.
Ouais.
C'est-à-dire que pour eux, c'est.
Ouais, mais.
Et donc.
Mais t'as CB un truc illégal, c'est quand même déjà un peu plus chaud.
Tu passes une étape. Non, mais
ouais, tu passes une étape,
c'est
vrai.
Ouais. Parce que
tu te dis, en fait, tu peux me faire pirater ma carte, en fait, comme c'est illégal à la base.
Bah, carrément. En plus de ces 10-20 balles par an, il y a l'achat, en général, du boîtier qui est préconfiguré
à
60-100 balles.
Il y a du hardware.
Exactement. On te fournit une petite boîte. Et alors,
wow.
Justement, alors je vais calmer déjà tout le monde. C'est évidemment complètement illégal.
Bah oui.
C'est possible de contrefaçon. Donc, 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Voilà. J'enchaîne. donc, illégal, mais pas moins passionnant. Comment est-ce que ça marche? Le boîtier, en fait, c'est un truc tout con. C'est juste une box Android.
Oui,
d'accord. Okay.
Voilà. Donc, comme il en existe plein de Xiaomi, Beelink, etc. Et le Malfra installe un APK qui est une application qui est un peu comme tu mentionnais Kodi tout à l'heure.
Oui.
C'est une application qui permet de mettre à disposition un certain nombre de chaînes sur le réseau IPTV, justement.
Ok.
Mmh. Okay.
Cette appli, comment ça marche? Elle va récupérer un fichier .m3u. Qui est littéralement,
playlist,
voilà, une fichier de playlist.
Qui est littéralement
ah, je connais ça.
Le truc qui est utilisé pour faire des playlists.
Exactement.
Et qui est un simple fichier texte. Et à l'intérieur, il va y avoir la liste de toutes les chaînes pirates auxquelles il peut accéder. Alors, on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais faut pas se dire que c'est sorcier parce que même un VLC, un logiciel comme VLC, est en mesure de lire ces fichiers sans problème.
Et puis, c'est pas non plus illégal parce que les M3U, c'est quelque chose que t'as avec ta Freebox, justement.
Pour, exactement.
Voilà.
C'est juste que c'est des fichiers, d'ailleurs, qui se baladent aussi un petit peu sur le web, sur les forums, etc.
C'est vrai.
Que les gens téléchargent et soit donc dans la box Android, soit sur un VLC ou etc., va le charger. Là, fresh. Il y a écrit fresh. Ça veut dire que c'est suffisamment récent pour espérer que la liste des serveurs qu'on voit, toutes les petites lignes, soit encore up. et que les autorités n'ont pas encore fermé les
serveurs. Parce qu'ils bougent de temps en temps de serveurs.
C'est une vraie guerre. C'est-à-dire que du coup, il y a les endureurs qui disent on a de nouveaux fichiers, voilà ce qu'il faut take down.
Exact.
Wow. Ouais, c'est compliqué.
Et donc,
ouais.
C'est le chat et la souris.
Ouais, c'est chaud.
Et moi, ce qui me rend ouf, c'est de voir à quel point le marché est mature. C'est-à-dire que on n'est pas sûr de la petite fraude, etc. C'est vraiment des business énormes. En France, c'est un petit peu moins connu, mais aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., mais tout le monde a ça, en fait. Tout le monde a une IPTV.
C'est comme un linker de Nintendo DS. Si tu l'as pas, t'es nul, quoi.
Voilà,
c'est ça.
Mais c'est vraiment hyper abouti. Il y a plein de forums qui sont en ligne où vraiment, au calme, tout le monde discute, etc., donne des conseils. Là, par exemple, on peut voir une liste sur tel modèle de IPTV craqué. Tu peux savoir quels sont les services qui sont accessibles, lesquels sont down, etc.
C'est incroyable.
En temps réel.
Tu sais à quoi ça me fait penser? Moi, quand j'étais jeune, nos darons et tout, ils venaient des fois avec des cartes et des box Canal Plus craquées qui duraient aussi genre 3 mois, 4 mois. Ça me fait trop penser à cette époque. Je pensais que c'était fini, moi.
Non, mais c'est encore ça. Mais du coup, ça s'est
modernisé
sur Internet, exactement.
Putain, c'est ouf.
Le business plan, effectivement. Justement, il y a Bilal qui nous dit qu'au Maghreb, c'est hyper développé. C'est principalement de là que ça vient. Ça vient aussi d'Europe de l'Est, Lituanie, Grèce, Bulgarie, Russie ou de la Chine. Donc des pays qui participent pas vraiment à la lutte contre le piratage. Ça tombe très bien, dis donc. Donc voilà, le seul souci qui a été remarqué, c'est que parfois, tu as une petite latence d'une trentaine de secondes, ce qui est un peu relou, par exemple.
Tu vois les buts en retard.
Voilà, exactement.
Mais c'est gratuit.
Après, tu me diras, Molotov, ils sont plutôt à 1 minute, voire 2 minutes de latence, donc des fois, ça marche mieux, c'est ça.
J'avais vu un tableau pendant la Coupe du Monde, je crois, qui listait toutes les latences sur tous les types de box. C'était hyper intéressant.
Et nous, on faisait des reacts de la Coupe du Monde, donc évidemment, de l'Euro sans image.
L'Euro plutôt, ouais.
Et du coup, j'ai été motivé et je me suis acheté ce que je pensais pas faire, un décodeur, un tuner TNT. En 2021,
pour être à sec sur le flux, quoi.
Que tu branches à VLC, VLC peut décoder ça, et ça nous permettait du coup d'avoir un rendu vraiment le plus proche pour pas se faire spoil par le chat.
30 secondes.
30 secondes de plus.
C'est vrai, c'est chiant.
Voilà, donc effectivement, ce qui est marrant, c'est que ce petit décalage nous donne des informations sur la façon dont ça fonctionne. En gros, les vendeurs donc des IPTV pirates, ils récupèrent les flux officiels et donc payant de chacun des services de chacune des chaînes. Et ensuite, ils vont simplement le rediriger sur un serveur. Il y a des outils qui existent. Moi, je suis allé vite fait voir. Tu vois, intéressant de savoir combien de temps. Est-ce que ce serait compliqué de créer un serveur comme ça pirate?
C'est super simple.
Exactement. Voilà. Des serveurs de diffusion télé. Oui. Tu as des outils open source qui existent. Et donc, voilà, ils font une simple redirection de récupérer le flux qui arrive, le renvoyer via leur serveur à eux pirate. À du pair à pair, enfin énormément de clients.
C'est vrai que c'est marrant parce que du coup c'était pas pour une utilisation pirate, mais c'était du coup je suis tombé très vite parce que c'est très bien documenté, comme tu dis, c'est très mature. Je voulais savoir comment récupérer mon flux TNT et l'acheminer facilement. Et en fait oui, t'as des serveurs qui du coup prennent ton flux et le transforment en flux TS, donc un flux facilement streamable. Et au départ c'est fait pour que les gens ils mettent genre leur box ou leur système en haut de leur maison pour que ça capte. Et qu'ensuite, ça passe en IP dans le reste de la maison pour que ce soit facilement accessible.
D'accord.
Donc, c'est très simple.
C'est assez fou. Et alors, du coup, sur la fin de la chaîne, donc, le serveur, il est up, il peut envoyer à tout le monde. Et donc, toi, sur ta petite box, on te fournit, enfin, le vendeur pirate te fournit une IP et un mot de passe, qui sont les identifiants donc, de la plateforme sur laquelle tu vas pouvoir récupérer tous tes flux vidéo. Voilà, mais c'est fait pour que ce soit n'importe quel newbie puisse y accéder, quoi. On te fait ta box préconfigurée. Ils auraient mieux fait de prendre la box eux-mêmes et d'installer le truc, mais alors et encore une fois, on vous le conseille vraiment pas parce que il y a l'APK dessus, on sait pas exactement d'où ça vient.
Ouais, c'est du Bitcoin en même temps.
Non mais voilà, c'est clairement le genre de truc qui est un peu bizarre. Mais on estime donc le manque à gagner de 4,2 milliards de dollars aux États-Unis.
Ah ouais,
j'ai vu, c'est 1 milliard en France.
Wow.
Donc c'est violent. Et le coupable, qui est le coupable, qu'est-ce qui fait que tout ça est simple? Parce que c'est quand même fou que ce soit aussi mainstream et simple.
Ouais.
Et le coupable, c'est HDCP. HDCP, ça veut dire High Bandwidth Digital Content Protection.
Je connais bien.
Ah oui.
C'est le DRM qui a été mis en place par Intel et qui est censé donc protéger les flux entrants et sortants des décodeurs et des box.
Oui, j'ai la ref.
C'est une sécurité sur le HDMI qui fait qu'en fait, tu peux pas capturer plein de flux. Enfin, nous, on connaît bien, du coup.
Moi, je connais bien aussi. Ouais.
Et bah, justement, moi, la première fois que j'ai découvert l'existence de ce protocole, c'est si jamais tu as une capture card, une carte de capture vidéo, et que donc, tu la branches, tu récupères le flux vidéo de ton ordi. Mmh. Ouais. Si jamais tu as un film Netflix, par exemple, qui est affiché, tout s'arrête. Mmh. Ça devient écran noir.
Et,
et je me suis dit, mais ça bug, il y a un problème, j'ai fait quelque chose de mal.
Je sais pas pourquoi, mais donc j'ai une Game Capture HD 60S+.
Ouais.
Et moi, je stream mon Mac à travers ça, dans mon PC de stream. Mmh. Et il y a le petit panneau barré HDCP en rouge.
Ouais.
Et pourtant, j'ai déjà capturé des Netflix, pour notamment peut-être le jeu de tout à l'heure.
Ouais.
Mais ça fonctionne, moi. Donc, je comprends pas, alors qu'il y a le truc rouge qui apparaît.
Il y a tellement de ramifications.
C'est comme ça que j'ai rencontré
ça. Tu es un hacker.
mais c'est vrai que c'est un sacré délire. En fait, le HDCP, nous, c'est un peu notre hantise quand on monte des setups de capture de console. Parce qu'en fait, Sony, par exemple, sur la PlayStation, il active par défaut.
Ah oui.
Sur toutes les consoles depuis la PS3. Ah donc, en fait, maintenant, tu peux la désactiver. La PS3, t'avais pas de moyen de la désactiver, donc t'étais obligé d'utiliser un splitter. Donc un splitter qui fait par deux. Il y avait certaines marques de splitter, mais qui étaient plutôt des no-name chinoises.
Ouais.
On savait que celle-là, elle permettait d'enlever le HDCP. Donc c'était des HDCP strippers qui permettaient du coup de...
Du coup, si tu voulais diffuser pendant un tel live le jeu vidéo sur une PS3, et ben tu devais le faire passer par un genre de dongle physique qui enlevait la protection.
Ouais, qui en gros transformait ton flux HDMI en flux DVI, et du coup, comme ça devenait un signal informatique, bah, en même temps, ça s'occupait de virer le... Voilà. Parce qu'en fait, en gros, dans le splitter, t'avais une puce qui authentifiait le splitter comme une télévision legit, qui du coup aurait le droit de mater. En fait, le splitter s'occupe de refiler le signal derrière.
Un sacré délire. Ce que j'ai découvert, c'est que cette technologie, donc le HDCP, c'est un gruyère.
Oui,
c'est impressionnant. C'est de là que ça vient, donc cette facilité, c'est qu'il y a plein de contournements donc hardware qui sont possibles.
C'est vrai.
Et en plus de ces contournements hardware, tu en parlais, les petits dongles que tu peux acheter qui vont te supprimer la protection, il y a des analystes cryptographiques qui se sont un peu penchés dessus, qui ont regardé ce qui était possible pour casser ces protections. Mm. Et en gros, on peut s'amuser. On peut faire des trucs vraiment facilement. Il y a la clé, il y a une clé privée qui est sortie en 2010.
Ah oui.
Et alors Intel a vu ça et a communiqué que en gros c'est pas très grave. On s'est fait pwn, mais enfin ils se sont pas fait pirater eux, mais en tout cas leur protocole s'est fait casser. Ils ont dit c'est pas grave,
on le réparera pas.
C'est quand même sécure. Il y a aucun souci. Bon, résultat, 10 ans plus tard, tous les flux sont dans la nature, dans des serveurs en Libye, en Lituanie. Coïncidence, je ne crois pas donc. Et encore une fois, on fait un petit mot de fin quand même, on ne vous le conseille pas. Votre fournisseur d'accès Internet pourrait d'ailleurs potentiellement vous dénoncer, même si c'est peu probable, mais les flux, ils sont publics a priori, sauf VPN et tout, mais bref. Ce sont des services qui peuvent être coupés du jour au lendemain, vous pouvez payer des trucs pour rien, donc attention à vous.
C'est sûr. Mais moi, je donnerai jamais ma carte bleue à un service comme ça. C'est vraiment très risqué, quoi. Ils peuvent fermer la boîte à tout instant et te faire un retrait de je sais pas combien.
En tant que consommateur, t'as aucune protection.
Oui, c'est ça.
De toute façon,
ils
te livrent vraiment au truc. Ouais, moi, je non plus.
Trop risqué.
Jamais.
Bah, en tout cas, moi, j'ai découvert tout cet écosystème. J'ai trouvé ça passionnant. J'espère que vous avez apprécié.
Ouais. Bah, je connaissais pas,
cette petite enquête.
C'était trop bien.
Est-ce que vous avez découvert des trucs, le chat? Alors, il y a peut-être plein de fouteux chez nous qui n'ont rien découvert. Paye en bitcoin, écoute, c'est une possibilité.
Vous devez voir des services qui proposent ça.
Oui,
ils doivent tellement proposer ça.
Ouais, mais bon, quand même.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. On va passer maintenant à la partie 2 consacrée au streaming. Vos métiers respectifs, en partie.
C'est vrai.
Surtout à cette affaire qui est sortie aujourd'hui autour du logiciel Streamlabs. C'est parti. On va pouvoir prendre le temps de discuter de tous ces sujets-là, de vos métiers respectifs, de vos passions, de ce qu'il faut faire, ne pas faire pour être un bon streamer finalement. Mais avant ça, on va revenir sur le drama de l'après-midi. Est-ce que Rizzo, tu peux nous expliquer en deux secondes ce qui s'est passé?
Oui, alors j'ai vu passer ça ce matin en me réveillant. Il se trouve que j'ai une tweetline où je follow un peu tous les... Voilà, c'est ce tweet de Lightstream qui a tweeté. Mais en gros, On va repart, partons du début, en fait, c'est Lightstream le début. En gros, Lightstream, c'est un service qui est très novateur, qui est très très cool, surtout pour les streamers IRL. C'est qu'en fait, c'est un service dans le cloud qui permet de feed, enfin, un peu de. C'est un OBS dans le cloud, grosso modo. Pour faire simple, c'est-à-dire qu'en gros, il te permet de streamer le flux de ta console de jeu, le flux de ton téléphone en IRL, sans avoir de carte de capture. Donc en gros, c'est très pratique pour les gens qui veulent se lancer dans le streaming. Bon, par exemple, ils peuvent mettre leur webcam via leur téléphone. Le gameplay, ils l'envoient directement via l'encodeur de leur console, parce que maintenant, les consoles modernes permettent de le faire. Et Lightstream permettait de délivrer cette techno-là en direction de Twitch, en direction de YouTube. Donc c'est super intéressant comme technologie.
Ouais. Ce serait dommage si c'était volé, par exemple.
Ce serait dommage si c'était volé, plagié et compagnie. Ouais. Et en fait, ouais, ils ont fait ce tweet-là où ils ont dit tiens, bah regardez, ils nous ont complètement pompé le design de notre explication de feature sur leur site.
Parce que effectivement,
alors, le design, et j'ai découvert ça en relisant une deuxième fois le tweet, parce que moi aussi, je l'ai vu dans le train en venant.
Oui.
Il n'y a pas que le design, apparemment, tous les textes sont les mêmes.
En fait,
c'est incroyable. Incroyable.
Si on affiche le,
ouais, le tweet d'origine.
C'est qu'en fait,
les textes sont littéralement à la virgule près les mêmes.
Oui, parce que Streamlabs, en fait, ils ont expliqué.
On a les deux homepages qui sont côte à côte.
On voit pas très bien, mais les gros headings, ils disent la même chose, en fait.
Et en fait, ce qu'ils disent pour dire leur justification de Streamlabs,
c'est très bon.
Dire ah désolé, c'est le texte, c'est les placeholders, donc c'est les textes temporaires qu'on avait mis pour faire la page. Et voilà, on a fait une erreur. Et en fait, on a mis les textes temporaires qui étaient du pompage, littéralement des textes de Lightstream. Et on les adore, Lightstream, c'est les meilleurs. Voilà, ils disent vraiment désolé, quoi.
C'est littéralement impossible.
C'est malaise. Alors, je récapitule pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi. Ouais. Mais Streamlabs, donc qui est une très grosse société de l'écosystème streaming, Twitch, etc.
Ouais.
A repompé l'intégralité de la page, donc. Oui. D'une entreprise qui fournit un service, comme tu l'expliquais, de OBS dans le cloud, quoi. Et son excuse, c'est que c'était un placeholder, donc c'est-à-dire une fausse page qu'ils ont créée.
Ouais.
Ils auraient pas pu mettre du lorem ipsum, donc le texte de défaut latin qu'on met.
Ça n'a aucun sens.
Non, le pire, c'est went into production by error. Genre, on a glissé comme ça, et pour la coder en glissant, merde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est impossible. C'est la pire excuse que j'ai jamais vue.
Dans les grosses boîtes, si je peux parler. Ouais, dans les grosses boîtes, le truc, c'est que je vois bien le scénario où Michel, il a mis un texte et ils ont dit, oh, on s'en occupera plus tard. Et puis en fait, ils se sont jamais repenchés sur le truc.
C'est incroyable.
J'ai beaucoup bossé, mais ça m'est jamais arrivé, ça, en vrai.
Oui, le pire, c'est que
c'est chaud.
Ah non, mais c'est pour lancer un produit exactement similaire.
Oui, c'est ça qui on sait d'où ça vient maintenant.
C'est pas un peu gros, c'est genre.
Parce qu'en vrai, ce qui est intéressant, c'est les outils et ce que vend en fait Streamlabs actuellement. Streamlabs, au départ, leur plus-value, c'est d'avoir proposé un système d'alerte. Donc un truc très complémentaire de l'activité de streamer sur Twitch. Un système d'alerte pour créer de l'engagement et pour que les gens soient bien accueillis quand ils arrivent, qu'ils follow, qu'ils sub et compagnie.
Très facile, donc ça, très packagé, ouais.
Ouais, ça c'est vraiment le début. Ensuite, finalement, ils n'ont fait que un peu comme un ogre, ils ont fait que copier ce qui se passait à droite à gauche, et pas vraiment proposer d'innovation majeure supplémentaire, on va dire, par rapport à leur truc de base qui reste un outil d'alerte pour streamer.
Il y a Velvet qui a réagi dessus, qui a fait un petit résumé de l'affaire. J'ai trouvé le résumé plutôt bon.
Ouais.
On peut à peu près résumer finalement l'activité de Streamlabs à avoir repompé OBS, donc qui est l'outil qui permet de faire des setups de stream, etc., de diffuser de la vidéo. Livestream, le produit et le site. Linktree avec Quillo. Streamladder.com avec Crossclip, donc qui sont que des services donc, de streaming. Tout ça pour le revendre 86 millions à Logitech.
Ah, mais c'est vrai que c'est Logitech maintenant.
Ouais, pensez-vous cette analyse?
Ouais, non, mais c'est clair, c'est tout à fait ça. Et moi, ça me fait vraiment penser à. J'avais fait une analogie un peu la même. Je crois que c'était du coup avec Instagram, qui a littéralement aspiré. Plein d'applis, ça a commencé par Vine. Oh tiens, des petites vidéos qui tournent en boucle. Ok, on prend. Oh, Snapchat, il fait quoi? Des stories incroyables. Prenons les stories, on est Facebook, de toute façon on a plein de sous pour développer. Ils prennent les stories. Et ça a terminé avec les TikTok, les Reels.
Les Reels,
et ça finit comme ça. Et tout ça pour dire que, moi, mon expérience, j'ai appris ça parce que j'ai eu cette expérience dans le début de ma carrière. Un site web, un service, une appli, ne peut pas être breveté.
Un concept, ouais.
Ouais. Oui, du coup, moi j'avais fait une appli, et on me l'a piqué. J'ai demandé à un pote qui faisait droit, il m'a dit...
Il y a même Zerator qui a réagi.
Voilà. Il n'y a aucun droit sur les idées. Donc Facebook, peut absorber les stories, tout ce qu'il veut pour son service. Et donc là, ça me fait vraiment penser à ça, et avec le petit truc, et en plus c'est payant, on l'a packagé et c'est payant. Tout l'open source on récupère. Donc, ouais.
C'est merveilleux. Mais il y a effectivement donc OBS qui a réagi.
Ah, le thread incroyable.
Qui a raconté, qui a rebondi sur cette actualité. Pour, comme tu disais, on en discutait tout à l'heure, ils sortent un peu leur tête de l'ombre. Oui. Il y avait des trucs qu'ils gardaient pour eux.
Oui, ils avaient le placard archive qui grondait là. Et donc ils
c'est
ont
le
fait
MeToo. Alors MeToo en fait, Streamlabs quoi.
C'est un peu ça.
En fait, Streamlabs, bon, puisque c'est le moment et puisque vous en parlez, et c'est vrai qu'ils voilà, il parlent de ça. Ils parlent même de voilà, filing a trademark, donc déposer une marque.
Oui, c'est ça.
Et c'est il parle bah du coup de la confusion qu'il y a en fait avec Streamlabs OBS et OBS. Donc Streamlabs OBS qui est un fork si je m'exprime en termes corrects. Ouais. Donc qui a repris la racine open source. Et ce qu'ils disent c'est que voilà, techniquement ils respectent les termes de la GPL.
Mais ça n'empêche pas d'être des.
Mais ils sont, voilà, rien, enfin le reste, tout ce qui n'est pas obligatoire, moralement, il y a pas mal, c'est pas très. Pas
alors
très
parce
sympa,
que du quoi. Coup, donc OBS qui est un projet open source méga connu que nous on utilise d'ailleurs ici, que vous utilisez chez Webedia aussi, qui sont utilisés
un petit peu
partout dans le monde. Et ben c'est un projet qui est fait par la communauté finalement, oui. Qui a été repris donc forqué comme tu dis par Streamlabs pour créer OBS Streamlabs. Sachant qu'ils ont demandé l'autorisation d'utiliser le nom OBS et qu'ils leur ont demandé de ne pas le faire.
Ouais,
et en fait, ils l'ont fait. Ils ont dit tant pis pour vous. Et du coup, maintenant, il y a tout le monde qui est un peu brainfuck et qui se retrouve dans le support de OBS à expliquer qu'ils ont des soucis alors qu'en fait, ils parlent de Streamlabs. Enfin bref. Ouais. C'est effectivement, comme tu disais, pas illégal vis-à-vis de la licence que OBS a. Mais c'est quand même vachement moralement questionnable. Quoi.
Bah, puis, c'est toujours pareil, c'est que oui, c'est un peu David contre Goliath. Dès que tu as un projet open source versus une corporation, la plupart du temps, c'est quand même la corpo qui a plus d'armes et plus d'arguments, on va dire, pour aller se battre sur le légal et compagnie. Ouais. Donc, c'est assez, assez lourd. Et après, par contre, Streamlabs OS n'est pas le seul clone, on va dire, qui utilise OBS. Il y a aussi un autre service qui s'appelle OBS.live. Et qui est lui maintenu par StreamElements.
Ouais.
StreamElements qui est lui-même un concurrent de Streamlabs. Mmh. Donc c'est un peu la même chose.
Un écosystème ou différent.
C'est payant aussi, Elements.
StreamElements, je ne sais plus. Je sais que OBS.live, si j'ai bien compris, c'est plus une intégration à la cool des outils d'alerte et compagnie.
Ouais.
Un peu comme Streamlabs, mais sans proposer de
Prime.
De Prime et de fonctions. En fait, il y a quelques fonctionnalités quand même dans Streamlabs OBS qui sont apparues d'abord chez eux et qui ensuite ont été déclinées comme des plugins.
Tu conseillerais d'utiliser un OBS Streamlabs plutôt qu'OBS, par exemple?
Absolument pas. Ah ben non. Mais en fait, le problème, c'est que Zeral disait un petit peu vite fait. Il disait, enfin, c'est marrant parce qu'il envoie aussi une pique aux créateurs et aux gens qui hésitent entre Streamlabs OBS et OBS. Ils disent, ouais, ceux qui utilisent encore Streamlabs OBS aujourd'hui, c'est des feignants. Et vraiment, il le dit, tu vois. C'est des flemmards.
Parce qu'il y a une interface un peu plus
simple. C'est pas 4G, quoi.
C'est un peu archaïque. Mais en fait, c'est assez spécial parce que mine de rien, moi, j'ai trouvé que la logique derrière Streamlabs OBS, elle est, en fait, si t'as déjà fait du Photoshop, tu comprends tout de suite.
C'est vraiment vrai. Ouais.
Et il y a juste effectivement des
petites courbes d'apprentissage,
une petite courbe d'apprentissage et un level supérieur qui est ce qu'on appelle le scene nesting, donc le fait de mettre des scènes dans des scènes, qui est complètement contre-intuitif, mais qui est quelque chose qui va t'aider en fait à faire une production value plus importante.
Sinon, on pourrait pas faire ça, hein, clairement.
Bah voilà,
ce que vous voyez à l'écran, ça serait pas possible.
Toutes les transitions, et enfin, ce qui est marrant aussi, c'est de se dire que la puissance collaborative du truc, c'est que toutes les transitions qu'on voit, qui sont bien placées, tu vois, sur ce que vous regardez, tous les effets, j'en parlais juste avant le live. Le truc, c'est que les effets que vous voyez sur les jingles d'intro avec le flou dynamique et compagnie, ça, c'est des trucs qui sont très compliqués à faire en télé, qui vont coûter assez cher. Et que même nous, avec notre workflow actuel à Webed, on pourrait le faire, mais ça nécessiterait tellement de briques différentes que là, dans OBS, c'est déjà directement disponible.
On prend un petit plugin par quelqu'un de la communauté. Ouais.
C'est ça.
Et c'est fait, quoi.
Et il y a vraiment un petit écosystème de plugins qui a explosé avec le confinement. Parce que vraiment, moi, OBS, ça vivotait, on va dire, avant mars 2020.
Ouais, c'est devenu hyper mature.
Mais ça a pris un gap incroyable, parce qu'au départ, OBS, il y avait un autre produit qui s'appelait XSplit, et clairement, il était derrière XSplit, qui lui, XSplit était payant, une formule avec abonnement, et en fait, XSplit a arrêté parce qu'ils étaient basés sur Flash. Donc, enfin, ils existent encore, hein,
ouais.
Mais il y a un moment, Flash, c'était compliqué. Et ils ont raison, parce que Flash, en fait, si on retourne encore plus loin, le protocole RTMP de streaming, c'est un protocole qui est d'abord créé par Adobe Macromedia. Donc, c'est quand même très ancien, ça date de Flash. On utilise encore cette techno aujourd'hui. Et donc, c'était logique d'avoir un truc qui était basé sur le Flash avec XSplit. Et OBS, en fait, est arrivé. Et il y avait plusieurs projets comme ça. Il y avait un truc qui s'appelait aussi FFSplit de mémoire, qui était basé sur FFmpeg et donc qui utilisait cette puissance d'encodage. Et il y a un moment où OBS, par la puissance de la communauté, a fini par step up de plus en plus. Et je pense que c'est grâce vraiment à la puissance aussi de Twitch, de la communauté, de ce côté
combiné au confinement, ça fait que...
Et combiné au confinement, c'est vraiment la dernière étape, le dernier chapitre, ça a vraiment été...
Je vais te poser une question très circonstancielle. Alors, s'il y avait un live, mettons, qui laguait, par exemple, tu vois, parce qu'on a une connexion qui n'est pas hyper stable, mais on a un opérateur un peu capricieux, etc., quelles seraient les solutions possibles, finalement?
Là?
Ouais. Est-ce qu'on peut changer le débit en cours de live ou pas, par exemple?
Oui, OBS, bien sûr. OBS, ouais,
en
maintenant,
cours de live
il... Oui. En fait, il y a des choses que tu peux pas changer en live, parce que, justement, le protocole RTMP fait qu'il est assez limité, parce que... Si tu les changes en plein milieu de ton flux, il faut que tu coupes ton flux et compagnie. Mmh. Par exemple, changer la résolution dynamique, c'est très mal supporté. Ça existe, hein, mais c'est...
Je croyais que
c'est assez, c'est très déconseillé, ça peut tout, entre guillemets, tout péter. Enfin,
okay. Ce qui me fume de rire, c'est que tu sois là le jour où
ça
on a
pas.
Plein d'ennuis.
Ah non, ça drop là.
Mais
c'est parfait en fait. C'est juste génial parce que du coup, tu vois, y a le SAV, il fait régie tout plateau. Tu vois, c'est...
Bah là, en gros.
N'hésite pas à aller. De l'autre
non,
côté,
mais
hein.
En fait, t'as des options. Alors, si on parle techniquement, les options avancées d'OBS, donc dans les options vraiment un peu cachées, t'as un onglet Network et donc tu peux cocher des améliorations réseau qui sont des systèmes logarithmiques d'adaptation de débit. Ouais. C'est-à-dire que quand il voit qu'il peut pas aller au-delà de 2 mégas, et ben il va descendre à 2 mégas et il va remonter. Et donc ça, voilà, il y a quelques petites choses. Mais après, voilà, si t'as pas internet. Mais c'est compliqué. Non, après, t'as des solutions de...
Si c'est trop un enfer, on aura l'option de faire de la 4G, mais ça nous est jamais arrivé. C'est un peu,
chaque fois que je passe devant la caméra, il y a toujours des trucs comme ça.
C'est clairement un piratage de ta part.
Ouais, je pense. Mais en fait, après, voilà, t'as d'autres solutions. C'est des briques de, comment dire, on appelle ça, j'ai plus le nom, de bonding, voilà. De bonding de réseau. C'est-à-dire qu'en gros, tu utilises une clé 4G, une arrivée en Ethernet, un Wi-Fi.
Okay.
Et ça, maintenant, tu peux aussi le faire, je crois même, avec un Raspberry Pi, aussi simple que ça. Et tu peux combiner donc différents arrivées d'Internet. Et du coup, bah, ça te sert un peu comme un anguleur pour l'électricité.
S'il y en a un jour qui pète, et bah, t'as l'autre qui prend le relais.
Exactement. Okay.
Ouais. Ah, intéressant. Bah, on va
on va peut-être se pencher là-dessus.
Comme un peu les backpacks stream IRL, ils ont plusieurs cartes SIM, trucs comme ça. Quoi.
Et si on parle de la techno qu'utilisent les streamers IRL, le bonding réseau, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est qu'en gros, tu pars avec un sac à dos, une caméra HDMI. Et donc, dans ton sac à dos, tu as un petit encodeur portatif.
Ouais.
Et en fait, ce petit encodeur, il envoie le flux via quatre moyens différents.
Opérateurs.
Clés 4G. Et en fait, tout ça passe dans un serveur intermédiaire qui, lui, va remettre ensemble les bouts de vidéo pour, en fait, te combiner un débit, par exemple, un flux vidéo en 10 mégabits qui aura été émis depuis ton sac à dos en 4 flux de 2,5.
Ouais, c'est incroyable.
Grâce aux différents réseaux et aux différents clés 4G. Et nous, c'est ce qu'on utilise pour éviter les coupures quand on part en expédition en IRL.
Voilà. Trop bien.
Et alors, justement, on en discutait très rapidement aussi sur la partie résolution.
Ouais.
Techniquement, sur le stream en 4K,
ouais.
Techniquement, je crois penser que ici, l'installation actuelle fait qu'on pourrait diffuser en 4K.
Bah, vu que vous avez des caméras en 4K, voilà, oui.
Le flux d'enregistrement est en 4K. Ouais. Donc, de mes faibles compétences, je dirais que techniquement, on pourrait.
Oui.
Est-ce que ce serait une mauvaise idée? Est-ce que c'est dangereux de diffuser en 4K?
Alors, c'est pas dangereux. Tu peux déjà le faire. C'est-à-dire qu'en fait, là, si aujourd'hui, tu décides de configurer ton encodeur et de mettre, tu le mets en résolution 4K et tu l'envoies à Twitch, Twitch va le prendre. Juste après, il en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que il va pas forcément bien le traiter. C'est-à-dire que les serveurs de transcoding, donc qui proposent des qualités de différentes, des flux de différentes qualités pour différentes connexions, eux vont peut-être passer ton flux en 720 direct.
Ah oui.
Voilà.
Donc, ou alors tu l'envoies mais pour personne.
Ben pour l'instant l'infra de chez Twitch est en train d'évoluer et elle est pas
pour
encore.
L'admin Twitch lui peut l'en regarder.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Elle est pas encore très très prête. Et en fait le problème c'est qu'en 4K60, enfin je prends le 4K60 comme étant le truc le plus haut on va dire. Le problème du 4K60 c'est qu'en fait si tu envoies au même débit qu'un flux en 1080p, ben tu vas pas pouvoir encoder aux ondes d'information. Donc tu vas avoir un problème à un moment de qualité vraiment dégueu qui va pas correspondre. Parce qu'on est toujours sur le même codec, qui est donc la manière dont on encode les infos vidéo. On est toujours sur le codec en H.264, qui est un codec qu'on appelle aussi un petit peu MP4 dans le conteneur, parce que ça parle un peu plus, qui est un codec assez ancien.
Mais qui est supporté sur tous les appareils.
Sur tous les appareils, voilà. Même ton grippin lit du MP4, quoi.
Bon, bien sûr.
Mais c'est vrai que maintenant, l'étape suivante côté Twitch, c'est qu'ils s'intéressent à des nouveaux codecs, de nouvelles manières d'encoder et de décoder la vidéo qui seraient plus efficaces, donc qui consommeraient en fait un peu plus de CPU, un peu plus de puissance d'encodage-décodage, mais qui ont l'avantage d'être beaucoup plus mieux compressés, en fait. Ouais. Et donc du coup de peser moins en termes de débit internet.
C'est-à-dire que pour autant de mégas de upload sur le réseau, tu pourrais avoir plus d'informations et donc mettre par exemple de la 4K là où avant en 1080p t'étais un peu serré quoi.
Exactement, et en fait eux ce qui les intéresse, ce qu'on a vu là à la vidéo, c'est que c'est une petite vue du futur on va dire, c'est qu'en fait les ingénieurs vidéo chez Twitch ils commencent déjà à plancher donc sur l'implémentation du codec AV1, qui est en fait le dernier codec de l'alliance Open Media, qui est donc un consortium de Apple, Cisco, Amazon, peut-être pas Amazon, bref, les grands,
les gros.
Google aussi, qui se sont dit, mais attendez, le H.264, c'est quand même un codec qui demande de payer des royalties pour l'exploiter.
Oui, en plus.
Pourquoi on ne ferait pas une version open source
voilà. Pourquoi on ne ferait pas une version qui ne coûte pas à l'exploitation? Et donc, ils ont planché là-dessus. Et donc, le dernier, l'AV1, c'est un peu le futur parce qu'il sera prêt pour l'AEIK. Et donc là, ce que vous voyez, c'est des tests. Donc c'est un upload sur. Vous pouvez le voir dans le player. Vous pouvez même le taper sur Twitch. C'est donc uploadé par Yueshi Shen, qui est l'ingénieur en charge du truc. Donc Y Shen.
Ah ouais.
Et en fait, c'est une vidéo. Donc c'est en VOD. C'est pas en live, mais c'est une vidéo qu'il a uploadée. Et si vous regardez les informations, options avancées, c'est pour regarder ta petite résolution. Il y a écrit AV1 et il y a écrit résolution 1440p, 120 fps.
Wow.
Donc ça c'est des tests de stream en 120 fps voilà.
Qui aujourd'hui serait très 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 compliqué
Avec le H.264, clairement avec la qualité d'encodage, ça il faudrait que tu le passes, je sais pas, dans un débit de 50 mégabits peut-être au moins.
Un bouillie de pixels finalement.
Et voilà.
Dès que ça bouge.
Et actuellement le 4K60 il est supporté chez YouTube, mais il n'est pas supporté sur Twitch parce que YouTube eux ils te disent vas-y envoie-nous ton flux en 35 mégabits, nous la bande passante ça nous fait pas peur. Là où la stratégie de Twitch est plutôt de se dire non, on va plutôt rester à l'économie et on va essayer de faire rentrer un codec de meilleure qualité, mais quand les machines permettront de le faire et que les débits seront
assez bons. Parce qu'il y a un truc que moi j' ai appris, parce que comme toi, je suis pas un professionnel de la vidéo à la base du streaming, donc on doit se former un petit peu au fur et à mesure, quoi, sur le tas.
Ouais.
Et typiquement, dans ma tête, tu vois, on évalue la qualité d'une vidéo à sa résolution, tu vois.
Oui.
Genre, HD, c'est bien. Ultra HD, c'est mieux. 8K, c'est génial.
Oui.
Tu vois. Et
parce
et juste mon seul critère d'appréciation
de
la qualité du jeu, c'est le nombre de pixels.
Oui.
Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens.
Ouais. Mais ça, c'est pour des gens qui du coup travaillent sur des vidéos en froid, pas des vidéos en chaud.
Ouais.
Voilà. Dès que tu passes sur une problématique de diffuser ça en direct, tu te poses la question du poids. Et la question du poids en général en froid. T'envoies ta qualité un peu master-like à YouTube et YouTube le traite, ça met un petit temps de traitement en direct.
Tu
dois y réfléchir
parce que pour tant de mégas, mettons, on va dire là par exemple, pour tout dire, on envoie 6 mégas normalement par seconde sur Twitch.
Oui.
Donc là d'ailleurs on a descendu je pense et donc on va voir si ça va mieux. mais donc sur ces, mettons, 6 mégas, moi, on me donne le choix, on te dit est-ce que tu veux envoyer du 720p, du 1080 ou du 4K.
Oui.
jeune utilisateur, je choisis le 4K, je veux que les gens me voient
bien.
Oui. Mais en fait,
mais tu aurais raison.
C'est potentiellement aussi une fausse bonne idée, parce que sur, je sais pas moi, sur un jeu vidéo qui bouge beaucoup, etc.
Oui.
Il vaut mieux avoir quelque chose de plus petit, mais de moins compressé. C'est
et
ça.
C'est d'ailleurs ce qui est assez embêtant. Enfin, ça a été une vraie problématique. C'est qu'en fait, nous, utilisateurs du gaming, on a des images qui bougent beaucoup plus qu'un film ou une émission de télé classique. Il y a peut-être juste le sport en fait, qui va plus se rapprocher de ces problématiques-là. Mais en fait, le codec H.264, au départ, c'est surtout un codec pour encoder des films, pour encoder des Blu-ray, pour repasser deux fois dans l'encodage pour faire vraiment un encodage propre, on va dire. Ouais. Là où, nous, le gaming en live, c'est un peu tout l'inverse. Ouais. C'est-à-dire qu'un Mario Kart sur la route arc-en-ciel, t'as tellement de pixels qui...
C'est la bouillie.
Bah, c'est mon stress test. C'est ce que je fais à chaque fois quand je teste des qualités d'encodage. C'est, voilà, je mets la route arc-en-ciel parce que, au moins, c'est, comme il y a tellement de pixels qui bougent à chaque fois, bah, c'est là où tu vois si ton encodeur fait le taf.
Mais en vrai, je comprends que ce soit pas intuitif. Ouais. Parce que pour comprendre ce phénomène, il faut un peu savoir comment marche la compression.
Exactement.
En fait.
Oui.
Et le fait qu'on n'envoie pas une matrice avec chacune des valeurs des pixels sur Internet.
Mais c'est ce qu'on pensait, ça. C'est enfin, moi, c'est ce que je pense, c'est ce qu'on pense tous au début.
Mais oui, c'est ça.
Mais c'est un peu la même analogie quand tu vends un appareil photo à l'époque. Tu dis, ah, il fait autant de millions de pixels. Mais il y a aussi la qualité du pixel, tu vois. Oui. Et donc, au début, on vendait, oh, notre appareil photo, il fait des photos hyper grandes.
C'est vrai.
Tu regardes, c'est dégueu. C'est la même chose, c'est la même analogie.
C'est
la
dégueu,
qualité
mais en
du
très
pixel.
Grand.
Ouais, c'est ça.
C'est
ça.
C'est exactement ça.
Et donc, si tu le regardes en tout petit, c'est bien.
Et en vidéo, t'as le nombre d'images par seconde qui se rajoute en troisième dimension du truc, quoi. Donc,
c'est ça. Et sur ce sujet-là, j'avais regardé une vidéo un peu de démonstration de quelqu'un qui voulait justement prouver ça, prouver que la taille d'une vidéo, c'est pas du tout forcément le plus important. Ouais. Enfin, c'est un des facteurs, mais voilà. Et donc, il faisait un clip YouTube, finalement, où il mélangeait des clips qui étaient en 720p, en 1080, en 4K.
Ah, tu devais deviner.
Et tu regardes le clip et tu dois essayer de deviner.
Ah oui, trop bien.
Qu'est-ce qui est quand? Et c'est hyper dur. C'est-à-dire qu'il y a certains des plans où c'est en 720p et c'est vachement plus beau.
Et c'est crispy.
Exactement, c'est magnifique.
Parce que...
Il y en a d'autres, c'est en 4K, c'est pas beau. Quoi. Tu as l'impression que c'est de la basse résolution. C'est hyper intéressant comme expérience à faire.
C'est vrai. Mais moi, d'ailleurs, c'est un sujet, quand on parle gaming, moi, c'est un sujet qui m'énerve un petit peu. C'est les gens qui, par exemple, pleurent à chaque fois qu'on annonce la nouvelle Switch et que la nouvelle Switch, l'écran, il est encore en 720p. Oui. Et je leur dis, mais franchement, pour une diagonale de 7 pouces, pour jouer à cette distance-là, tu t'en fous. C'est limite plus joli, tu vois un peu, tu vois pas trop la matrice, mais tu distingues les pixels, c'est crispy, c'est précis, c'est bien détaillé, et t'as pas besoin de beaucoup plus. Et l'autre problématique...
Après, en batterie, du coup, faut économiser, par exemple,
aussi, évidemment.
Tu es mitigé.
Bah, en fait, oui, mais quand même, l'arrivée du Retina, ça nous a fait quand même du bien.
Bien sûr, le Retina, ça a fait plaisir. Donc
c'est vrai que tu dis une Switch Retina, ça pourrait être sympa
mais
aussi, tu vois.
Au boulot, on a de la chance. Au boulot, on a Pépé Garcia qui vient nous faire des tests techno tout le temps. Là, là il nous a installé une télé 8K.
Ouais.
Bah, la télé 8K...
C'est juste super grande, mais sans plus, quoi.
Mais c'est-à-dire que tu sens pas trop la différence. Et là, bientôt, on va faire des tests à l'aveugle entre le 8K et la 4K, parce que... On a vraiment du mal
On a fait un petit sondage pour savoir en quelle qualité les gens regardent.
Oui.
Ils sont à 68% en 1080p.
En source. Voilà.
Sur Twitch. Donc, ils regardent le flux original.
Et,
intéressant.
Et ça, c'est intéressant. Mais nous, il y a une autre stat qu'on aime bien regarder, justement, avec les stats Twitch, c'est sur quel appareil ils nous regardent.
Mobile,
et quand on se rend compte, qu'on est à. Côté le stream, à une époque, on était à 50% de gens qui nous regardent sur mobile.
Oui, donc
le gap. Passer du 720p au 1080p déjà était un petit peu discutable. Alors le gap du 1080p ou de la 4K alors que les gars regardent sur leur téléphone, bon, la franchement.
Porte, et justement, du coup, toi qui es aux manettes d'une web TV donc qui diffuse énormément, qui est donc très suivi, le passage à la 4K, vous y pensez ou c'est hors de question?
Bien sûr. Oui, le passage à la 4K, on y réfléchit. Enfin, en fait, moi, ça serait un bon kiff, tu vois. Donc, bien sûr qu'on y pense. En fait, c'est toujours pareil, le facteur limitant dans la chaîne, actuellement, c'est Twitch. Vu que Twitch n'en propose pas, on va pas le faire.
YouTube.
Voilà, go YouTube. Alors, en vrai, on l'a fait pour, j'y vais, donc jeuxvideo.com.
Ouais.
Ils ont lancé leur gaming live sur leur chaîne YouTube. Bah, du coup, on leur a fait un setup 4K complet. Donc là, ils sont très bien. Ils peuvent streamer en 4K. On a eu cette problématique récemment avec les consoles next-gen, donc la PS5 et la Series X, où là, on s'est dit, bon, quand même, s'il faut montrer justement dans les arguments le passage au 4K 60, il faut quand même pouvoir le montrer.
La nouvelle console, voici la 4K.
Le sponsor n'est pas content.
Ouais, c'est ça.
La 4K.
Et c'est vrai que on a budgétisé et on a des enveloppes, donc soit on change tout, on met que des caméras en 4K, et donc ça c'est la partie la plus haute, soit on change uniquement les quelques briques pour garder le gameplay en 4K, et les autres caméras seront en 1080p upscalées, voilà. Et on en avait pour, je sais plus, peut-être 8000 balles, le moins cher, c'était 8000 balles, on va dire, pour passer.
Oui, mais
alors, quand je dis 8000 euros, le truc c'est que 8000 euros, quand. En fait, déjà, on parle en professionnel, et les tarifs professionnels, on s'en rend pas compte. Mais.
Tu te fais des studios qui sont déjà des centaines de milliers d'euros.
C'est
donc,
ça, voilà. La régie de le stream, voilà, le mélangeur en lui-même est autour de 40 000 euros. Donc ça, c'est juste le mélangeur. T'as pas encore les lumières, les caméras, le son, tu vois. Donc voilà, c'est normal. En fait, c'est une autre échelle. Ouais, il faut surtout pas se dire ah mais mon ordi, il fait
c'est
mieux.
C'est ça qui fait que le stream crache pas au milieu, par exemple, normalement.
Il peut. Parce qu'en fait, ça tourne sur Windows 10. Donc voilà. Mais
c'est problème.
Mais c'est vrai que voilà, c'est des échelles différentes et c'est ça qui est aussi intéressant avec les streamers et le streaming, c'est que le fait d'arriver d'avoir OBS, c'est que ça change un peu la donne. Ça a complètement fait exploser des milieux professionnels qui maintenant travaillent avec OBS dans un coin parce que c'est trop pratique et c'est gratuit, tu vois. Et c'est pareil pour les protocoles, on parlait de vidéo en IP au début, c'est pareil pour le protocole de vidéo en IP, donc nous on utilise beaucoup ce qui s'appelle le NDI, qui est un peu le HDMI qui passe par ton câble Ethernet. Ça c'est trop bien, c'est-à-dire qu'en fait t'arrives dans la dimension de l'IP, donc c'est-à-dire du n'importe quel flux disponible n'importe comment sans tirer de câble, tu te branches juste à ton réseau local. Et ça, c'est un truc qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, là où il te parlait d'un protocole qui s'appelle le SMPTE 2110, qui est le protocole IP.
Évidemment, le fameux.
Donc, en fait, tu vois, nous, on branche des câbles RJ. Le SMPTE, c'était, nous, on va brancher des câbles avec de la fibre optique dedans, directement
pour faire la vidéo.
Parce que, pourquoi pas.
Mais effectivement, profiter du fait que tu as un réseau déjà existant pour envoyer ta vidéo, c'est encore plus smart.
Exactement.
Et ça, c'est le NDI, du coup.
Et ça, c'est le NDI. Et en fait, le NDI, si tu as un switch 1 giga, un flux NDI, c'est à peu près 100 mégabits de compression discrète. Qui n'altère pas trop la qualité de ta vidéo, on va dire, parce que de toute façon, ça finit par être encodé sur Twitch.
Oui,
c'est pas
voilà.
Mal, du coup.
C'est ça qui fait que tu peux envoyer d'un bout à l'autre du bâtiment un flux en bonne qualité sans tirer un seul câble HDMI ou SDI.
C'est ça qui est cool.
C'est magnifique. J'ai une question pour toi, Basti. Est-ce que, on parlait d'un peu passage à la 4K, augmentation de la résolution, est-ce que c'est un truc qui est important du coup dans le design quand toi tu fais des tu réfléchis à des interfaces, etc. Tu penses à la résolution ou à des choses comme ça, ou la taille d'écran ?
En vrai, honnêtement, aujourd'hui, quand tu conçois une interface, depuis plusieurs années, tu fais plus attention aux tailles d'écran, dans un sens où tu peux pas te dire « j'ai fait la version 1080, j'ai fait la version 720, j'ai fait la version ». En fait, il faut travailler sur des formats fluides dès le début. Donc, on va tout de suite créer des composants qui peuvent se redimensionner, qui vont se réagencer en 2, 3, 4 lignes. Donc, en design d'interface, on a vite fait arrêter de penser en pixels, on a arrêté de penser en taille fixe, etc. Donc en vrai, l'arrivée de la 4K ou de n'importe quelle autre résolution, même form factor, parce que là on parle de trucs en 16e, mais nous on fait des carrés, des verticaux, tous les form factors, ça change pas grand chose. Par contre, ça a un peu changé les choses, on va dire, au niveau de la façon d'appréhender, surtout par rapport au Retina, même il y a eu le double Retina à un moment, A3X, il y a eu A2X, A3X, je crois même.
Retina qui est donc la façon dont Apple appelle la haute résolution.
Comment expliquer ça? En gros, pour un pixel, vous en voyez 4. En fait, vous voyez deux fois plus de pixels, mais vous ne voyez pas. Mais du coup, ça donne l'impression de netteté, quoi. Et ça marche surtout bien sur les écrans que vous regardez de très près, en fait. Voilà. Et donc, il y a eu ça. Et ça a un peu impacté la façon de designer parce qu'il y a eu une tendance il y a peut-être un ou deux ans. Et là, on le voit même sur YouTube, les pictos deviennent tout fins. C'est-à-dire que les icônes deviennent de plus en plus fines. Tu regarderas les pictos de YouTube, les nouveaux. C'est devenu des trucs très filaires. Avant, on avait des trucs plutôt mastoc, plutôt remplis. Et là, on se permet des choses un peu plus fines.
Est-ce que c'est plus précis?
Parce que du coup, de plus en plus de gens sont équipés de Retina ou de 4K, mais le site, du coup, il est divisé par deux parce que ça sert à rien d'avoir ton bouton menu là et ton truc là-bas. Tu vas plutôt zoomer le site. Ouais. Et du coup, tu vas plutôt aller avoir plus de détails dans les objets et ça va te permettre peut-être de designer des éléments que tu n'aurais pas fait avant parce que ton truc en 1 pixel, il aurait juste été invisible sur l'iPhone 3G, tu vois. Ça aurait été juste impossible de voir. Donc, niveau taille d'écran, comme tout est responsive depuis des années, pas de souci. Par contre, niveau détail, j'ai vu des petites nouveautés là chez YouTube. Je dis, tiens, ils osent des trucs tout fins. on conseillait pas avant.
Ça serait peut-être pas permis avant.
Ouais, ou j'ai YouTube, mais c'est l'écosystème Google en général. Quoi.
Je sais pas à quel point tu parles souvent de design, d'interface, etc. Tes outils, c'est plus, j'ai l'impression, Figma, Illustrator et tout.
Ouais.
T'as une partie de ton métier en vidéo, en motion, par exemple?
Alors, moi, j'en fais un peu parce que déjà, ça me passionne, ouais, de base. Mais il y a de plus en plus de mouvements dans les maquettes. Donc, t'as cité Figma, qui est pas un outil de design graphique, qui est un outil de prototypage à la base. C'est-à-dire que tu vas pouvoir créer des éléments, les mettre dans des écrans, puis tester des enchaînements. Je clique là, ça fait ça, je clique là, ça anime ça, etc., etc. Donc ça, c'est rien à voir avec Illustrator, rien à voir avec Photoshop. Ça n'existait pas à l'époque de ces outils-là. Adobe a rattrapé le retard en sortant Adobe XD, ouais, maintenant, qui est le pendant de Figma. Mais donc Figma, c'est un outil de prototypage, et le métier d'un designer, c'est de faire un prototype de à quoi ressemblerait la maquette pour la tester, pour la valider et pour pas gaspiller du temps en développement. Parce que si tu commences à développer toutes tes idées, ça coûte vraiment plus cher que juste faire un petit prototype. Voilà. Et donc le motion, de plus en plus, il est important dans nos expériences parce que...
Il se mélange avec cette partie prototypage.
Ouais, de ouf.
Pour permettre, j'imagine, de voir un peu comment ton appli, elle va bouger, etc.
C'est ça. En fait, déjà, plein de choses, c'est que le design, c'est des couleurs, des formes, des choses. Mais aujourd'hui, on peut passer pas mal de messages, et je m'avancerai peut-être en disant ça, mais pour moi, plus de 50% des messages, ils passent par les animations aujourd'hui. On est sur des écrans de plus en plus petits, on a eu des écrans tactiles, donc des gestures. Ouais. Ça a vraiment beaucoup changé la façon d'appréhender le web.
C'est vrai.
Et les animations, elles deviennent de plus en plus importantes. Et c'est pour ça qu'un designer d'interface, s'il connaît du motion, c'est du bonus. Et ça permet de passer plein d'infos. Tout bêtement, si tu cliques sur une page et que la deuxième page vient du côté comme ça, eh ben, tu vas comprendre que t'es rentré dans une profondeur, tu vois. Et du coup, tu sais qu'en faisant la gesture inverse, tu vas revenir en arrière. Si un pop-up vient du bas, tu sais que tu pourras le refermer en le swipant vers le bas. Plein de choses comme ça. Il y a aussi d'autres choses qui se passent par les animations, c'est des émotions. Par exemple, quand tu cliques sur le like de Twitter, il y a une petite animation d'explosion de petits ronds rouges.
C'est vrai.
Des petits confettis et tout.
C'est hyper important de nos jours, dans les expériences, de créer, voilà, des moments un peu spéciaux, des émotions, etc. Donc, comme tu l'as dit, ouais, le motion est de plus en plus important dans ce taf-là, ouais.
Donc tu es un streamer aussi. Toi, tu n'es pas streamer. Ah, ça, tu en fais un peu quand même ou pas?
J'en fais un petit peu quand je suis pas fatigué, quand j'ai pas trop streamé le reste de la journée.
Mais tu en côtoies énormément.
Oui.
Selon vous, si quelqu'un qui nous regardait voulait potentiellement se lancer dans le streaming, soit pour son travail ou personnellement, c'est quoi les trucs à ne pas faire au moment de se lancer? Est-ce qu'il y a des trucs que vous auriez aimé savoir potentiellement?
Faut pas laisser le son de retour de Twitch ouvert.
Oui,
sinon ça fait les boucles.
Tout le monde l'a fait, ça.
Ouais.
Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi.
C'est ça. À l'infini. En vrai, c'est un peu les mêmes règles que, tu sais, les 10 commandements qu'avait fait Antoine Daniel, là, pour te lancer en vidéo.
La mezzanine, même.
Le truc qu'il avait fait, ouais, voilà. La règle la plus importante, ça reste le même, hein, privilégier le son.
Ouais.
Parce que ouf. Finalement, là, tu vois, on est sur Twitch. Mais on pourrait très bien être à la radio, un petit peu quand même.
On est en podcast, voilà, disponible sur toutes les plateformes. Je te remercie pour cette passe.
La passe D. Mais le son, c'est super important. En fait, non, c'est ça qui est bien. C'est que t'as pas tant de questions de poser, à te poser que ça. Que c'est pour ça que les gens ont bien adhéré à Streamlabs OBS, justement.
Ouais.
C'est que ça, c'est simple. C'est tu peux vraiment te lancer facilement.
Je suis en direct.
Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu des gens improbables qui se sont mis à streamer, comme... les représentants, les députés américains,
ou alors des grosses stars qu'on voit,
Jean-Luc Mélenchon, tout ça, quoi.
Même maintenant Thierry Beccaro ou Thierry Moreau,
ouais,
il y en a plein, hein, qui sont maintenant sur Twitch et ils font ça tout seuls.
C'est comme une visioconférence, c'est aussi simple à lancer qu'une visio, quoi.
C'est vrai,
qu'un appel Google Meet, quoi.
Ouais, mais des gens qui ont bossé toute leur vie dans la télé, donc qui ont toujours laissé des gens faire des trucs à leur place.
Ils devaient
là, ils avaient le petit gène de l'autodidacte, et du coup, qui sont...
Après, rappelez-vous, il y a une période sombre où il y a pas mal de médias qui se sont lancés sur Twitch, qui sont pris des bashing de ouf quand même.
Ouais,
pauvre journaliste qui était là, oh, qu'est-ce qui se passe?
C'est vrai, mais alors
c'était
en fait,
un peu chaud des fois.
Ce qui était, pour moi, le problème de ça, c'est qu'en fait, ils y sont allés parce que pour eux, c'était un projet qui faisait partie du community management.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà. Donc à chaque fois c'était la petite équipe community manager, alors que tu t'attendais à avoir une production de la télé arriver sur Twitch.
Non, c'était les soupçons.
Mais c'était pas idyllique pour tout le monde.
Ouais.
Il y en a qui ont pris cher.
Il y en a très très peu qui l'ont fait. Il y a peut-être juste, je crois que Click TV de Mouloud, ils ont streamé un petit peu sur Twitch.
Ah, c'est exactement ça à quoi je pensais.
Oui, voilà.
Qui était déjà semi-web en fait, Click. Donc, il y a notamment Cousalo qui nous dit ne pas choisir SFR comme provider.
J'ai SFR.
Ah, ça c'est un bon choix.
C'est pour nous.
C'est vrai.
Mais c'est quand même fou que l'émission
où on parle de tout ça, ce soit l'émission où on est en 20 FPS, quoi.
L'hôpital. On donne des conseils, les amis.
C'est terrible.
Écoutez-nous. Vraiment très, très crédible. Toi, t'aurais des conseils à te donner à ton toi-même qui commence, tu vois? Ou ça peut être technique ou pas, d'ailleurs?
En fait, ouais, bon, niveau technique, Rizzo a bien résumé. Le son, c'est vraiment très important. Je pense que même là, il y a plein de gens qui nous regardent pas. Ils écoutent. Et même moi, je consomme pas mal Twitch comme ça. On n'a jamais les yeux tout le temps dessus.
Bien sûr.
Le son, très, très important. Ce que je pourrais donner comme conseil, et ça s'appliquerait pas forcément à tout le monde, mais à moi, ça s'appliquait, c'est que faut faire quelque chose que tu kiffes.
Oui.
Parce que si tu te forces à faire un truc genre, moi aussi, je veux être le streamer Rocket League et jouer avec les gens que j'aime bien, ça marchera jamais. Si tu commences, t'arrives avec une passion, moi, j'aime bien couper du bois, bah, t'arrives, tu coupes du bois en live, tout le monde fait, t'as vu ce gars qui coupe du bois, il est trop sympathique et tout. Pour moi, c'est ça qui peut marcher. Alors évidemment, c'est très gaming, et moi je suis pas du tout gaming, donc je porte cette voix-là. Mais l'important, c'est de faire quelque chose que tu kiffes, et de pas se forcer, voilà, surtout.
Je pense qu'il faut aussi bien revoir ses streams, mal d'autocritique, et d'arriver à avoir l'œil pour voir ce qui a marché, ce qui a pas marché. Moi, quand j'ai très vite vu que mes talents d'animateur n'étaient pas forcément mon point fort, j'ai essayé de trouver d'autres leviers d'engagement, et comme je savais que j'aimais bien la bidouille, je me suis mis à travailler, mais les effets qu'on peut déclencher, en fait, les choses que les interactions qui peuvent arriver via le chat. Et quand Twitch a lancé, en fait, un truc qui s'appelle les points de chaîne, tu peux maintenant le chat, tu peux déclencher des effets grâce à ça. Et donc je me suis passionné pour essayer de trouver, on a ce bloc là de plugin OBS qui fait telle action, on a tel software entre les deux qui peut lire le chat et en même temps déclencher des choses.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme truc marrant?
Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des trucs, des petits effets un petit peu viraux. Et ça a été de me dire, j'ai trouvé ma petite niche, j'ai trouvé mon truc. Et c'est aussi ça, un peu la force de Twitch, c'est il faut que tu trouves ta niche.
Ouais.
Il faut que tu trouves un truc, ton petit truc en plus, quoi.
Ouais.
Voilà. Qui fait que les gens reviennent parce qu'ils trouvent ça nulle part ailleurs.
Ouais. Et j'en profite pour faire un petit big up, du coup, à Lunat, qui est mon frère et qui m'a aidé sur énormément de choses dans cette aventure, en vrai, depuis le début, parce que du coup, ça le passionne aussi. Et donc, il m'aide beaucoup à Indie un peu plus d'aigu.
Je l'ai déjà vu dans ton chat.
Ouais, il est déjà venu même dans les streams. Il me dit, un peu plus d'aigu là, là c'était pas ouf et tout. Et c'est lui qui a construit pas mal d'interactivité sur mon chat. Donc j'ai... il m'a dit, c'est pas des Arduino. Donc je me rappelle plus, Lunat, mais dans le chat, c'était là. En gros, j'ai des petits chips qui lance aussi des actions au niveau des points de chat. Donc j'ai une petite poupée qui s'incline quand tu fais coucou, et j'ai un néon banane néon qui clignote avec des points de chaîne, mais aussi
ça,
lors des raids, elle clignote X fois en fonction du nombre de personnes qui rejoignent le raid. J'ai déjà eu des raids de 900 personnes, j'ai cru que ma maison allait complètement prendre feu, mais c'était pou derrière moi, mais voilà. Donc en effet, je me suis beaucoup éclaté sur ça aussi, parce que ça permet de laisser... exprimer sa créativité.
C'est ça qui est
Je me suis couché plusieurs soirs à 3h du matin parce que je cliquais sur OBS en mode « Ah, c'est pas mal, je vais faire ça » et je me laissais prendre au jeu.
Un gouffre potentiellement à temps.
Et pour fermer l'arc, OBS est un logiciel en vrai formidable. Il est tellement performant et agréable à utiliser, je trouve.
Il tient la baraque, et en fait, si on fait juste un comparo par rapport à un mélangeur traditionnel, en fait, OBS, la seule limite, c'est la puissance de ta machine, là où un mélangeur traditionnel va te dire « Nous, on prend 8 entrées. » Et c'est
terminé.
Pas plus.
Ouais,
par contre... elles vont jamais laguer, il y aura jamais de problème, voilà, elle va jamais drop.
Contrepartie.
Et donc c'est la contrepartie du truc.
Ouais.
Pour continuer sur ces sujets-là, donc on rappelle que tu es un des réalisateurs donc de l'émission Le Stream.
Ouais,
je vais te demander du croustillant, je veux des bonnes anecdotes. Est-ce que tu as déjà fait planter Le Stream?
Oh,
ça t'est déjà arrivé.
Il y en a eu plein. Bah
tu es aux manettes, donc ça peut se produire.
Faire planter. Alors en fait, après, on a tellement de problèmes qui peuvent arriver. Pendant longtemps, les gens s'en rendaient pas compte parce qu'on avait travaillé sur un backup, mais on avait le panel de contrôle, donc vraiment une surface de contrôle avec tous mes boutons, une sorte de gros clavier, gros stream deck, on va dire, qui plantait. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait plus le reconnecter. Le seul moyen de reconnecter, il fallait sortir de la session et revenir.
Donc en fait, Windows.
La session, c'est le projet. C'est le projet parce qu'on utilise
ton outil,
un TriCaster, qui est donc un ordi, mais un peu modifié, un peu tout en un, qui permet de prendre des flux et de c'est une sorte d'OBS, on va dire, pour vraiment vulgariser. Et en fait, pour refaire fonctionner ce panel, il fallait sortir de la session, donc du projet, on va dire, du fichier projet.
En plein milieu.
En plein milieu. et revenir.
Mais tu diffusais quoi pendant que tu quittais, du coup ?
Là, du coup, on avait donc des macros. Des macros, c'est des actions combinées.
Automatiques, ouais.
Okay.
Qu'on déclenchait donc avec un Stream Deck qui est relié à une appli magique qui s'appelle Compagnon. Donc Compagnon, c'est un software, si vous voulez virer la couche de votre Stream Deck, la couche Elgato, on va dire. Tu peux faire tourner un truc qui s'appelle Compagnon et qui est...
On utilise ça ici.
Voilà, tout le monde connaît. Mais
moi,
en gros,
pas.
ça permet d'interfacer énormément d'appareils entre eux. Et donc, en fait, c'est comme si ton Stream Deck devenait une vraie télécommande universelle.
Boîte à outils.
Qui n'était plus limitée que par les plugins de Elgato, mais par plein d'autres choses.
Ça bug de ouf.
Et donc, Compagnon, en fait, nous permet donc de switcher. En fait, c'est une action vraiment qui déclenchait genre 8 actions différentes. En gros, ça passait tous nos écrans qui étaient connectés à une grille de routing. Donc là, on part dans les trucs. Grille de routing. Donc c'est une grille qui achemine les signaux vidéo à l'ancienne. Donc à l'ancienne, c'est vraiment un signal vidéo qui rentre dans c'est un gros splitter. Un splitter 40-40. Donc t'as 40 entrées, 40 sorties. Voilà.
On se croirait dans l'ancien téléphone, ouais.
Oui,
avec les opérateurs.
Et c'est un peu ça. Et donc tu peux choisir d'envoyer telle entrée à telle sortie et compagnie. Donc on a nos écrans de retour qui sont là-dessus et compagnie. Et donc en fait, on avait un mélangeur de backup. Donc cette fois-ci un Atem de Blackmagic, donc c'est un mélangeur.
Quel enfer.
Ouais.
Il y a tellement de soft et de hard.
Et en fait, c'est un mélangeur donc de backup qui lui ne fait pas tout l'habillage du TriCaster, mais qui permet juste de faire une sorte de régie dégradée avec uniquement les caméras.
C'est incroyable.
T'avais deux versions de ton flux, une dégradée quand ça buguait.
C'est ça.
Qui affichait des rectangles de les caméras pour pas qu'on croie que c'est pas noir. Et après un truc plus.
Non, ça prenait les caméras. On avait vraiment splitté, dérivé les signaux des caméras. Ce qui fait qu'en fait, on pouvait juste pas balancer de vidéo pendant ce temps-là. On avait plus d'habillage par-dessus. Voilà, c'était du brut. C'est juste switch de caméra, mais
moi, il y avait pas rien à l'écran.
Le principal.
Et donc, en fait. Un mini récap de l'anecdote pour ceux qui ont été perdus sur des mots.
Je vais vous faire un petit schéma.
Mais en gros, en plein milieu de stream, vous pouviez avoir l'entièreté des flux des caméras qui passaient par un autre chemin que le mélangeur normal pour fournir une genre de version light du stream le temps que vous fassiez vos petits choses.
Il n'y a pas les logos et tout, du coup, c'est ça.
Mais voilà, il n'y a pas les logos, mais en gros, ça permettait, c'était un peu invisible. Ce que j'aimais bien, c'est que c'était un peu invisible pour les viewers. C'est qu'en fait, on faisait aussi le switch, du coup, de routing. Donc, on avait un PC sur OBS, du coup, qui encodait le signal final. Et ben, lui, on lui disait juste, OK, tu prends plus le flux du TriCaster, tu vas prendre le flux de l'ATEM directement. Et donc, du coup, ça passait sur le flux de l'ATEM. On avait 4 caméras. Les gens, ils voyaient juste un petit flash noir. Et puis, bon, les logos, ils se sont barrés. Okay. Nous, pendant ce temps-là, hop, on rebootait. Et puis, une fois que ça rebootait, hop, on repassait de l'autre côté. Et ça, c'était presque invisible, on va dire.
C'est vraiment dégueu. Ils savent pas charger des logos en PNG. Ils sont nuls.
Voilà, mais sinon, en fait, avant qu'on ait développé cette petite solution de backup, donc qui vient de sauver quand le reste prend feu, avant, il fallait juste dire le son, il va peut-être aussi couper, mais en tout cas, on va passer sur un écran noir.
À tout à l'heure.
Vous entendrez peut-être un peu, mais on revient en 30 secondes. Okay. Et donc, on faisait ça en plein milieu de l'émission. Okay. Donc, ça, on va dire que c'était les galères un peu ultimes.
Et alors, en plus de ça, c'est quoi la pire frayeur que t'as eue aux manettes?
La sueur.
La sueur. Alors là, je saurais même pas te dire. Non, c'est.
Bon.
Non, en fait, je sais pas
la
parce que j'ai tendance à.
À oublier.
Non, mais oui, en fait, quand ça va mal, on le traite. Et après, quand ça va bien, on n'y pense plus, en fait. Parce qu'on avance, on a tellement de trucs. Voilà.
Point faible, trop fort.
Je saurais pas. Non, mais vraiment, en plus, je suis une nature assez optimiste quand même. Donc, du coup, j'ai du mal à me remettre sur ce qui va vraiment pas. Ouais. Ça m'angoisse quand c'est pas réglé. Mais une fois que c'est réglé, ça roule, quoi.
Voilà, par exemple, c'est ce qui va se produire.
Non, qu'est-ce qu'on a eu? Si, il y avait un bug qui a été assez récurrent, assez relou. C'est qu'en gros, on utilisait. Pareil, je vais parler assez technique. On utilisait. Tu trouves un moment où ça switch? Ou non, c'est peut-être en live, ça? Je sais pas. Non, on est plus 21h22, c'est quand même plus récap.
T'as pas un spot qui est tombé du plafond, je sais pas.
Non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je cherche vraiment des gros trucs où rien n'a redémarré. Non, si, on a eu un gros problème il y a pas longtemps.
Ah, on y vient.
Ça, c'est vrai que c'est intéressant. on est passé sur les solutions en IP, tout en IP.
Ouais.
Ok. Voilà.
Sauf que.
Qu'est-ce qui pourrait arriver de mauvais?
Internet.
Eh bien, il y a eu une coupure de courant il y a pas longtemps.
Un courant, ok.
Dans le quartier de Webedia. Donc à Levallois.
Bon, mais ça, même les caméras, normalement, elles marchent plus.
Enfin, si t'arrives à streamer sans courant, t'es vraiment
La coupure de courant a eu lieu, je crois, dimanche matin, un truc comme ça. En gros, un transformateur a pris feu dans un endroit, enfin vraiment une galère. Voilà, le réseau électrique est un peu vétuste à Levallois, on le sait. Je crois que les routeurs sont passés donc sur leur onduleur. tout va bien.
Ok.
Sauf que de ce que j'ai compris, ils n'ont pas été remis quand le courant est revenu sur leur courant principal, on va dire.
Okay.
Ils avaient disjoncté avant,
ouais.
Donc ils étaient sur onduleur. Donc ils continuent de se vider de leur batterie. Donc le courant était revenu à Webia, tout était normal, on démarre tout.
Et en plein milieu.
Et le lundi matin, alors j'étais pas sur place, mais c'était assez galère parce qu'il fallait trouver des solutions en plus à distance. Il fallait quand même que les émissions aient lieu, mais plus de réseau, plus d'internet.
Et tout passait par les câbles.
Et comme tout passait en IP, bah du coup on avait plus le routeur qui faisait le travail de dire « Allez, toi prends-moi cette caméra-là, fais ça. » Voilà.
Ah bah super.
Donc super.
Le futur, hein.
Et donc, en fait, le temps que les routeurs redémarrent, que en fait il fallait redémarrer doucement, enfin t'imagines quand c'est un grand bâtiment, et bah du coup il a fallu qu'on trouve des solutions et donc on a rebossé, on va dire pareil, un petit peu en dégradé, donc tout en
analogique,
numérique,
on rebranche toutes les caméras,
ça va, parce qu'en fait on n'avait pas il y a quand même encore une part en SDI, donc en physique, en câblé vidéo dans nos mélangeurs, du coup on était encore en physique et donc par contre il a fallu qu'on repasse tout l'audio lui en analogique, et ça a été un petit peu rock'n'roll. Mais ça va parce qu'on a encore des consoles, enfin on a toujours des consoles qui font une partie en analogique. Mais bref, tout ça a été un sacré switch de se dire ah oui, mais en fait
là on a une heure,
voilà, combien de temps avant le live,
il faut que tout remarche. Et en fait finalement on s'est rendu compte qu'on n'était pas si loin que ça de la vidéo en physique.
Okay.
Mais c'est aussi parce que notre studio principal, on va dire le studio où on tourne le récap, lui il était resté un petit peu dans son jus, comme c'est le plus vieux. On a encore tous ces câbles-là qui sont tirés,
okay,
qu'on a gardés au cas où. Et donc, on a dû sauter une émission, mais le reste, on a pu l'enchaîner sur le même plateau, parce que du coup, on s'est dit, ok, on reste que sur le même. Et on a utilisé, du coup, pour streamer, cette solution de bonding dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir rester en 4G au cas où le réseau ne revienne pas. Wow. Et au final, je crois que tout est revenu à la normale pour le récap. Et juste avant le récap, on a pu repasser en mode normal.
Merveilleux. On a aussi une question du chat.
Oui.
Je ne sais pas si tu pourras répondre. À quand un retour de le live?
jamais. Enfin, le live, il faut savoir que le live, c'était pas le stream qui s'en occupait. Hein. Pour le coup, c'est même, voilà, Webia est une grande boîte. Et donc, nous, on était très occupés, on était H24 sur le stream, on pouvait pas s'occuper de le live. Le live ne reviendra pas parce que.
Il y a toujours un bâtiment, le live.
Alors,
j'étais venu visiter, tu vois.
Oui, oui,
il y avait des étages, etc., des studios.
Ouais.
Parce que le live, pour ceux qui ne savent pas, c'était donc un projet de web TV qui n'était pas du tout axé gaming, etc., mais beaucoup plus culture web,
des youtubeurs.
En fait,
le pari de live, c'était de se dire ok, on a des viewers qui nous regardent sur Internet, mais si on pouvait arriver à ramener les gens qui regardent la télé, qui sont des millions tous les soirs. Si on réussissait à les faire se brancher sur Twitch et compagnie.
Ce qui n'était pas bête dans le concept.
Ce qui n'est pas bête dans le principe, dans le concept, sauf qu'en fait, ça n'est jamais arrivé. Ouais. Et en fait, c'est surtout des moves très très longs. C'est-à-dire que MyTF1 aujourd'hui arrive à avoir des résultats où des gens matent en direct via Internet, mais c'est tellement long. Donc même si TF1 n'arrive pas à faire cette transition-là, comment est-ce que nous, on pourrait arriver à le faire? Donc ouais, c'était un pari, c'était un pari éditorial, on va dire, qu'ils avaient, que Webedia avait, de lancer un média qui allait parler aussi bien à ta grand-mère que à ta petite sœur, mais
parle à plus personne du coup.
Bah et du coup voilà,
c'est quoi dans le
c'est la maxime que tu peux dire, voilà, de parler à tout le monde, tu parles, enfin tu sais.
Oui, si tu parles,
si tu parles à tout le monde, tu parles à n'importe qui, enfin tu parles à personne, bref, tu vois les maximes. Et les studios en fait, ils existaient avant le live. Hein, certes, ils ont eu un grand relooking pour le live, mais ils existaient avant. C'était déjà, c'était les locaux de pour une opération Fanta, les Fanta XU, donc les trucs de découvreurs de talent, les qui faisaient. Après maintenant ils sont encore exploités aujourd'hui mais pour des OP des trucs
pas de retour de live, désolé pour ce
non désolé attendre. Désolé pour ça
et puis voilà, c'est une fin de cette émission. C'était méga cool, on avait quelques petits bugs, potentiellement des chutes de FPS, n'est-ce pas, ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. J'espère que c'était quand même cool à regarder. Merci à mes invités. Donc, Pasty, je crois avoir vu que tu faisais le tour des streams parisiens cette semaine.
Alors oui, demain matin, je suis chez Nowtech. Voilà, parfait. Donc, je ferai le mug avec Guillaume demain matin. Ouais, en pleine tournée parisienne. Et j'en profite du coup d'avoir la parole pour encore te remercier, toi et ton équipe, de
créer ce genre de format et de m'y faire participer. C'est vraiment trop cool que ça existe sur Internet. Donc je le redis.
Très plaisir.
Et je le redirai à chaque fois. Vraiment, merci beaucoup pour tout.
Bah non, mais tu régales. Et Rizzo, on te retrouve. La réalisation, je sais pas, on te voit pas trop.
À la réal. on a des caméras dans la régie. Donc ouais, vous me retrouvez à la réal. Qu'est-ce que je fais demain? Demain on reçoit, on fait une émission musicale aussi. On fait gaffe au DMC et tout, mais on reçoit Kyo. Okay. C'est rigolo.
Ah, j'ai kiffé.
Donc vous me retrouvez, voilà, sinon vous me retrouvez dans le récap, en intro, peut-être, et à quelques moments très précis.
Ouais. Trop bien.
On te retrouve donc potentiellement aussi sur ta chaîne Twitch. Oui. Quand tu as du temps, donc tu nous as dit.
Voilà, ça, c'est nous qui font.
Merci beaucoup, donc, au chat pour cette émission, pour votre participation. Petite information, d'ailleurs, on vient de passer les 100 000 abonnés sur la nouvelle chaîne Micode, tout court.
Déjà?
Et oui.
Tu vas avoir le petit trophée.
Mais on va voir encore un autre trophée. On en a ouvert un la semaine d'avant. Et on vient de passer les 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube d'Underscore, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les VOD, les versions non buggées, par exemple, de cette émission. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et nous, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.